La carrière de Robert Altman se place sous le signe de la provocation, de l'iconoclasme, du défi. Surfant sur le vent de liberté apporté par le Nouvel Hollywood, il se lança dans une série d'aventures audacieuses, ne se pliant jamais ni aux diktats commerciaux, ni à la mode. Réputé colérique et irascible, son attitude et son anticonformisme vont le faire bannir des studios, avant un spectaculaire comeback au début des années 90. À l'occasion d'une rétrospective de son œuvre au Festival Lumière à Lyon, replongeons dans le monde de Robert Altman, que le critique Robert Benayoun avait justement appelé « le chaos fertile ».
Une histoire de cinéma. Un podcast revu et corrigé, coproduit par Tsugi Radio et présenté par Antoine Julien.
Nous sommes en octobre 1970. Le réalisateur Robert Altman s'envole pour Vancouver tourner son nouveau long-métrage, John McCabe, avec en tête d'affiche Warren Beatty et Julie Christie. Il n'a encore jamais travaillé avec une star aussi importante que Warren Beatty. L'acteur n'a pas la réputation d'être un comédien facilement malléable, pas du genre à faire une chose qu'il n'a absolument pas envie de faire. Sur chacun de ses films précédents, il avait exigé d'être associé aux décisions importantes. Et Beatty lui-même n'a encore jamais travaillé avec un cinéaste aussi franc-tireur que Robert Altman. Après une inévitable période de rodage nourrie de quelques tensions, les deux hommes trouvent un terrain d'entente et semblent aller dans la même direction, voulant faire de John McCabe un anti-héros. Qui est John McCabe? Un mystérieux joueur de poker qui arrive dans une petite ville de l'État encore sauvage de Washington en 1902. Il s'associe à Constance Miller, une prostituée avec qui il ouvre un bordel. Mais les relations entre Warren Beatty et Robert Altman s'effilochèrent au fur et à mesure du tournage. Altman se plaignant de son interprète, qui selon lui cherche la petite bête constamment, exigeant de connaître la signification de chaque mouvement de caméra, de chaque ligne de son texte, de chacun de ses déplacements. Le cinéaste doit aussi gérer le manque de coordination dans le jeu entre Warren Beatty et Julie Christie, l'actrice étant parfaite dès la première prise, alors que Beatty a besoin de plus de temps. Bien qu'Altman réussisse à être accommodant avec sa vedette, il jette parfois l'éponge, notamment lors d'une scène que Beatty voulut refaire encore et encore, au point que le metteur en scène, fatigué, rentre à se coucher, laissant son assistant terminer la séquence. Mais les choses se gâtèrent plus sérieusement durant la post-production. Lorsque la star découvrit le long métrage terminé, il fut horrifié par la bande-son. Il est vrai que les conditions météo furent exécrables à Vancouver, où il neigeait et pleuvait sans cesse, ce qui avait fortement compliqué le travail du preneur de son. Robert Altman, satisfait du travail sur le son, trouva que Beatty faisait un caprice. Mais Lou Lombardo, le monteur du film, enfonça le clou, trouvant le son absolument désastreux. Malgré les plaintes de Beatty auprès du studio, le son ne fut pas retravaillé. Mais le drame survient lors d'une projection de presse à New York, le 22 juin 1971, racontée par Altman lui-même dans le livre « Le Nouvel Hollywood » de Peter Biskind. Il y a eu un problème avec la bande-son lors de la projection. On m'avait dit qu'elle avait été contrôlée par le monteur, ce qui était faux. Et cette bande-son désastreuse rendait le film totalement inaudible. Je me suis mis à crier « Arrêtez tout, il y a un problème de bande-son, on n'entend rien !» Et on m'a répondu « Il y a toujours eu un problème de bande-son, c'est toi qui l'as faite comme ça !» Non, ce n'est pas la façon dont je l'avais faite. J'ai quitté la salle de projection, je suis sorti et je suis allé bouffer un steak. Je n'avais plus qu'une envie, prendre un avion et foutre le camp en Alaska. Bien que le film reçut des critiques mitigées, Pauline Kael, la célèbre plume de New Yorker, ne tarit pas d'éloges, exprimée en ces termes. Improviser, à l'instar des Européens les plus talentueux, c'est le rêve de nombreux réalisateurs américains. Mais peu ont su accorder ce rêve avec la réalité économique. Est-ce qu'un Américain peut se permettre un film aussi personnel que John McCabe? Est-ce qu'un public suffisamment nombreux est prêt à accepter des films américains qui suggèrent, au lieu de tout rendre explicite? Ou bien n'acceptons-nous de tels films que s'ils viennent d'ailleurs? Et encore, ne s'agit-il que d'un petit groupe parmi nous, assez pour assurer le succès d'un film étranger, pas assez pour assurer celui d'un film américain qui coûte plus cher à réaliser? Permettrons-nous aux metteurs en scène américains d'accéder à la maturité de l'artiste? On demande toujours, où sont les Bergman et les Fellini de l'Amérique? Voici un artiste américain qui a réalisé un film formidable, La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si le public suivra. Et le public, Robert Altman ne va pas lui rendre la tâche facile. Robert Altman est né à Kansas City, dans le Missouri, en 1925. Il reçoit une éducation catholique stricte. Il fréquente les lycées Rockhurst et Southwest de la ville avant d'être envoyé à l'académie militaire de Wentworth, près de Lexington, où il termine ses études secondaires. En 1943, alors âgé de 18 ans, il s'enrôle dans les United States Army Air Force et sert pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que copilote de bombardier B-24. À la fin de son service, en 1947, il s'installe à Los Angeles et s'essaie à l'art dramatique, l'écriture et la réalisation. Il coécrit avec le réalisateur Richard Fleischer le scénario de Bodyguard, qu'ils vont réussir à vendre à la RKO et qui sera tourné par Fleischer l'année suivante. Ce succès inespéré lui permet de s'installer à New York et d'entamer une carrière d'écrivain. Mais il ne rencontre pas le succès attendu et retourne s'installer à Hollywood, où il ouvre un magasin de tatouages pour chiens. Son entreprise fait faillite et en 1950, Altman retourne à Kansas City, où il est engagé à la Calvin Company, qui possédait le plus grand laboratoire de développement de films en 16 mm. Il réalisa plus de 60 courts-métrages industriels durant 6 ans qui lui permirent de se faire la main tout en gagnant $250 la semaine. Il apprit à tourner des films rapidement pour une compagnie de tracteurs, une société pétrolière, la sécurité routière, entre autres, et dans les délais imposés. D'un point de vue technique, il se familiarisa avec tous les outils du réalisateur, la caméra, la perche de prise de son, les éclairages. En 1955, il quitte la Calvin Company, puis est embauché par Elmer Rodden Jr., le directeur d'une salle de cinéma de Kansas City, pour écrire et réaliser un film de série B à petit budget sur la criminalité adolescente, intitulé The Delinquents, qui deviendra son premier long-métrage en 1955. Altman écrit le scénario en une semaine, le tourne en deux, avec un budget de $63,000. Rodden Jr. voyait dans ce film un moyen de démarrer rapidement sa carrière de producteur, tandis qu'Altman y voyait son ticket d'entrée dans les hautes sphères d'Hollywood. Le casting est composé d'acteurs et d'actrices du théâtre local qui jouaient alors dans les films de la Calvin Company, des membres de la famille d'Altman et de trois acteurs en provenance d'Hollywood, dont Tom Laughlin qui incarnera plus tard le personnage principal de Billy Jake. En 1956, accompagné par son assistant réalisateur, il quitte définitivement Kansas City pour aller monter The Delinquents à Hollywood. United Artists en assura la distribution pour $150,000 et le film en rapporta près $1 million lors de sa sortie en 1957. Le succès de The Delinquents fut de courte durée, mais le film attira l'attention d'Alfred Hitchcock, qui demanda à Altman de réaliser quelques épisodes de sa série télé Alfred Hitchcock présente. Il en réalisa deux. Au moment de tourner le troisième, il dit à Joan Harrison, qui produisait la série, qu'à son avis, le scénario ne valait rien. Or, il ne savait pas que l'auteur du script n'était autre que Joan Harrison. Il ne tourna pas de troisième épisode. Entre 1958 et 1964, il réalisa de nombreux épisodes de séries télé, dont Combat, Bonanza, Willy Birds et Route 66, et écrivit et réalisa en 61 un épisode de Maverick, intitulé Bolt from the Blue, avec Roger Moore. Il réalisa également un épisode de la série télé Bus Stop, mais sa fin, dans laquelle un tueur échappait à la justice, était tellement sujette à controverse que la diffusion de la série s'arrêta à la fin de la saison, suite au débat au Congrès américain. En 1963, il fonde sa société Lionsgate, pour laquelle il va réaliser son premier long-métrage, Countdown, en 1968. Mais c'est un échec cinglant, de même que son film suivant, That Cold Day in the Park, sorti en 1969. Robert Altman est dans une impasse, mais la destinée va lui jouer un joli tour. Through early morning fog I see visions of the things to be. The pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. En 1968, Richard Hooker publie un roman autobiographique intitulé MASH. L'histoire tourne autour de trois jeunes officiers militaires, frondeurs et anticonformistes, qui sont affectés à un hôpital mobile de campagne, le Mobile Army Surgical Hospital, le MASH du titre, durant la guerre de Corée et qui vont mettre la vie du camp sans dessus-dessous. Très vite, Ring Lardner Jr., scénariste du Kid de Cincinnati, s'empare du livre et propose un script au producteur Ingo Preminger, le frère du célèbre cinéaste Otto Preminger. En raison du contexte international, marqué par l'intervention américaine au Vietnam, Ring Lardner Jr., qui fut victime de la chasse aux sorcières, éprouve de nombreuses difficultés à trouver un réalisateur apte à porter son scénario à l'écran. Ingo Preminger et le président de la 20th Century Fox, Richard Zanuck, dressèrent une liste des réalisateurs susceptibles de mettre en scène cette histoire peu banale et très controversée. Tour à tour, Fred Zinnemann, Joseph Mankiewicz, David Lean, Arthur Penn, Mike Nichols, Stanley Kubrick, George Roy Hill, Franklin G. Schaffner et Bob Rafelson sont contactés. Tous refusèrent la proposition. Le dernier de la liste se nomme Robert Altman. L'agent d'Altman, George Lito, fit projeter à Preminger quelques-uns des travaux du réalisateur. Le producteur, séduit, décida de faire un essai. Lito négocia le contrat du metteur en scène, 125 000 $ et 5% des bénéfices. Mais lorsque la Fox apprit que Preminger était en négociation avec Robert Altman, les choses se compliquèrent. Depuis une émission de télé 10 ans auparavant, dans laquelle le cinéaste avait traîné le studio dans la boue, sa réputation était loin d'être indemne à la Fox, qui baissa le montant de ses émoluments à 75 000 $ sans aucun bénéfice. Altman, qui n'avait pas vraiment le choix s'il voulait relancer sa carrière à tout prix, accepta. Il voyait surtout dans le scénario l'occasion de prendre le contre-pied du film de guerre traditionnel en ne montrant jamais la guerre en tant que telle. Très engagé sur le projet, exigeant une liberté totale, il mit certaines choses au clair. Pour lui, le film est une occasion d'agresser le public, et par extension la race humaine, qu'il tient pour responsable de toutes les atrocités perpétrées dans le monde, comme il le raconte dans le livre « Amis américains » de Bertrand Tavernier. Pour moi, ces docteurs n'étaient pas plus des héros que n'importe qui d'autre. J'ai essayé de montrer qu'ils étaient aussi pourris et détestables que le reste des gens. C'est juste leur boulot qui les rendait différents. J'ai essayé de gommer toute trace d'humanité, à la fois des scènes et du lieu où elles se déroulaient. Vous savez, ces petits détails humains qu'on nous a montrés pendant des années dans des centaines de films de guerre au premier plan. Moi, je voulais détruire cela sans le sang, la mort, les cadavres et toute la merde. Durant le casting, Altman insiste pour n'avoir que des acteurs inconnus. Il choisit de futures vedettes comme Donald Sutherland, Elliot Gould, Tom Skerritt ou encore Robert Duvall. Sur les 28 rôles parlants, seule une moitié s'était déjà retrouvée devant une caméra. Altman a conscience que la crédibilité de Mash repose essentiellement sur l'harmonie qui règne entre les personnages du film. Pour les immerger, le réalisateur installe ses acteurs durant quelques semaines dans des tentes militaires qui serviront de décor pour le tournage, afin qu'ils puissent faire connaissance et répéter ensemble. En raison du budget restreint, le tournage ne se fait pas en Corée, comme Robert Altman le souhaitait. Le décor du film est en fait reproduit à Santa Monica, dans le studio où est tourné au même moment Patton, de Franklin G. Schaffner. Le camp médical est construit à Malibu, près du ranch du producteur Richard Zanuck. La séquence de la partie de golf, censée se passer à Tokyo, est quant à elle filmée sur un autre terrain à proximité. Durant le tournage, Altman innove sans cesse, particulièrement dans le choix de l'overlapping dialogue, un procédé qui consiste à faire parler plusieurs personnages en même temps, jusqu'à la cacophonie, et qui deviendra sa signature. Renforcé par l'utilisation de nombreuses pistes sonores, associées à de très longs plans d'ensemble aux actions multiples, cette superposition installe un brouillage de sens qui rend parfaitement compte du chaos et de l'anarchie que le cinéaste, témoin cynique de son temps, s'amuse à enregistrer avec la complicité de ses acteurs. En découvrant les rushs chaque jour, juste après avoir vu ceux de Patton, les producteurs de la Fox sont totalement décontenancés par le film. Le premier long métrage venant d'un studio où l'on entend le mot « fuck ». Par bien des aspects, MASH est l'anti-Patton. A United States Army Field Hospital, somewhere near the front lines.
Check this place out. See what the nurses are like.
That one, the sultry bitch with the fire in her eyes.
Onward, Christian soldiers, marching as to war.
Who are those men? Friends of yours, Mirahack?
I think you will find these accommodating. They're quite dry.
Don't you use olives?
We do have to make certain concessions to the war. We're 3 miles from the front line.
This is the story of two indispensable military surgeons. They had the army over a barrel. But did they take advantage of it? Yes. MASH, a motion picture that raises some important moral questions. And then it drops them.
What are you two hooligans doing in this hospital?
Well, what's the matter with her today?
Look, Mother, I want to go to work in 1 hour. We are the pros from Dover.
Somebody get that dirty old man out of this operating theater.
And then give me at least one nurse who knows how to work in close without getting her tits in my way.
La Fox exige que les scènes d'intervention chirurgicale, très sanguinolentes, soient toutes coupées au montage, pensant qu'elles choqueraient le public. Mais, craignant que le film perde en qualité, Altman insista pour qu'elles soient conservées. Richard Zanuck, le patron du studio, présente une liste de 30 demandes de changement et coupes après avoir vu le film. Ingo Preminger réussit tout de même à le convaincre de faire une projection test à San Francisco. C'est un triomphe. Les dirigeants de la Fox, soupçonnant Robert Altman d'avoir noyauté la salle avec des amis à lui, organisèrent une nouvelle projection à New York avec Daryl Zanuck, le père de Richard. Altman se souvient. Daryl Zanuck avait deux jeunes nanas avec lui, deux Françaises pas farouches. À la fin du film, il se leva et dit « Il faut remonter tout ça !» Les filles protestèrent en disant que c'était super. Et c'est comme ça que MASH put sortir dans sa version originale. MASH sort sur les écrans américains le 18 mars 1970. Il rapporte plus de 36 millions de dollars et se classe troisième du box-office de l'année. Le film totalise 3 650 000 entrées lors de sa sortie en France, se hissant ainsi à la sixième place des longs-métrages les plus vus au cinéma en 1970. En raison de son côté irrévérencieux à l'égard de l'institution militaire, il est interdit dans les cinémas des forces armées américaines qui n'apprécient pas vraiment le parallèle évident entrepris par le cinéaste avec la guerre du Vietnam. Par ailleurs, le film n'est pas distribué en Israël à cause des scènes sanglantes de chirurgie. MASH est nommé 5 fois aux Oscars, mais dut s'incliner devant un certain Patton, encore lui. Mais il remporta la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1970. Robert Altman a 45 ans, il est enfin reconnu comme cinéaste. Face au succès, il se montre étonnamment serein, comme il exprime dans cette interview publiée dans Ami Américain. « Je m'attendais à un succès normal, mais ce triomphe m'a plongé dans la perplexité. Je disais en riant que le succès de MASH devait me rendre pessimiste quant à l'évolution de mon pays. » En fait, même si les gens se trompent dans leur interprétation du film, cela n'est pas grave. Un film n'est rien, ce n'est qu'une simple petite chose. Et ce qui peut changer des gens, ce sont des milliers de petites choses. MASH s'inscrit dans un ensemble de livres, de films, d'articles, d'essais, de reportages qui influencera une partie des gens ou l'a déjà influencé. Moi qui étais chasseur, je suis dégoûté de la chasse, non à cause d'une expérience, mais après tout ce que j'ai lu, après des discussions. Ce sont ces millions de choses auxquelles on ne prête pas attention qui peuvent avoir une importance. Moi, tout ce que je peux, c'est essayer de contribuer à ce changement. Être l'une de ces millions de choses sans savoir si ce que je fais est bon ou mauvais, utile ou inutile. Le succès du film conduit à la production d'une série sur CBS dès 1972 et qui s'achèvera en 1983. On y retrouve les mêmes personnages, mais avec des interprètes différents. Robert Altman, lui, enchaîne plusieurs longs-métrages remarqués, mais qui n'attirent pas les foules. Jusqu'à Dashville, en 1975.
Price of bread may worry some, but it don't worry me. Tax relief may never come, but it don't worry me. Economy's depressed, not me. My spirit's high as it can be. And you may say that I ain't free, but it don't worry me. It don't worry me. It don't worry me. You may say that I ain't free, but it don't worry me.
Le film suit les itinéraires croisés de 24 personnages qui se retrouvent dans la capitale de la country music, Nashville. Parallèlement à ce milieu musical, Altman suit la campagne d'un candidat présidentiel, un personnage que l'on ne verra finalement jamais. Le cinéaste réussit la gageure de filmer 24 protagonistes d'importance comparable, ce qui a sans doute effrayé les studios qui ont tous refusé le projet avant que la Paramount ne consente à le distribuer. La majorité des chansons du film sont composées et écrites par les acteurs eux-mêmes et ont été enregistrées en live et non en studio. Quant au tournage, les acteurs ont majoritairement improvisé au cours de scènes filmées en plan séquence. Voici comment Robert Altman évoquait l'atmosphère de Nashville dans cette interview donnée pour le magazine Playboy en 1976. Chacun des 24 personnages du film correspond à un archétype. Nous avons choisi ces archétypes très soigneusement pour qu'ils représentent un segment de notre société qui soit mis en relief par l'industrie musicale et par le nationalisme ou le régionalisme profond d'une ville comme Nashville. Quand on prononce le nom de Nashville, on suscite immédiatement l'image d'une grande richesse et de succès instantané. C'est comme Hollywood il y a 40 ans. Des gosses descendent de l'autocar avec une guitare pour tout bagage. Deux ans plus tard, ils ont une piscine en forme de guitare. Ce que Nashville signifie aussi, c'est que nous ne savons plus écouter. Les paroles des chansons sont aussi prévisibles que celles des discours des politiques. Quand le président annonce dans une déclaration solennelle que nous réglons le problème du Moyen-Orient, nous n'écoutons pas. Cela devient un rythme, une musique, plutôt que des paroles porteuses de sens. Nashville se contente de suggérer qu'il faut réfléchir à ces choses. Beaucoup de gens veulent qu'on leur dise exactement ce qu'ils doivent penser. Ils veulent savoir quel est votre message. Eh bien non. Mon message, c'est que je ne vais pas faire leur travail à leur place. Le cinéaste est de nouveau nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur, mais il doit encore s'incliner, cette fois devant Miloš Forman, grand vainqueur, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il faut dire que les autres concurrents étaient de taille. Stanley Kubrick pour Barry Lyndon, Sidney Lumet pour Un après-midi de chien et Federico Fellini pour Amarcord. Altman semble à nouveau rejeté par ses pairs. Ses films suivants vont connaître des destins contrariés, la plupart seront des désastres financiers, jusqu'à Popeye, en 1980, qu'il accepte de réaliser pour Disney. Robert Altman aurait-il perdu son âme ? Le demi-succès ou demi-échec du film, c'est selon, va en tous les cas l'éloigner d'Hollywood pendant une décennie. Mais le cinéaste ne s'avoue pas battu, s'exilant un temps en Europe, multipliant les projets au cinéma, au théâtre, à la télévision, passant même à la mise en scène d'opéra. Certains films sont encensés, notamment Secret Honor sur Richard Nixon, d'autres descendus en flammes par la critique. À propos de la critique, voici ce qu'il en pensait dans cette interview donnée pour Playboy en 76. « Il est probable que je suis paresseux. Il est probable que je ne contrôle pas mes films autant que le souhaiteraient certains critiques, mais c'est mon affaire. Si mon style est trop libre, trop improvisé au gré de certains, c'est leur problème, pas le mien. En réalité, je ne suis pas le plus grand metteur en scène d'Hollywood, ou Dieu ne sait quoi, mais je ne suis pas le contraire non plus. » Et je ne suis pas négligent, je suis peut-être irréaliste, j'essaie d'obtenir certains effets et je n'y arrive pas toujours. Mais ce n'est pas un bâclage, comme on me le reproche parfois. C'est peut-être par manque de jugement. Il connaît un léger retour en grâce en 1988 grâce à la série Tanner 88, une des premières produites par HBO, qui est une fiction documentaire satirique sur les coulisses de la campagne présidentielle américaine, l'œuvre la plus créative qu'il ait jamais réalisée, selon ses dires. Mais le public manque toujours à l'appel, jusqu'à ce qu'Hollywood devienne le sujet même de son incroyable comeback. Dans The Player, Robert Altman filme un producteur d'une majeure d'Hollywood, arrogant et cynique, interprété par Tim Robbins, qui reçoit des cartes postales anonymes menaçantes provenant d'un auteur dont il aurait refusé le scénario. Le cinéaste plonge avec délectation dans la vanité et la suffisance d'Hollywood, lui qui fut si souvent détesté des studios qu'il n'a jamais porté dans son cœur. Il se moque de l'obsession des films concepts qui peuvent être racontés et vendus en une phrase, des idées absurdes de suites et de remakes à la chaîne, des stars du moment que l'on veut mettre à toutes les sauces. Roublard, le cinéaste invite un grand nombre de stars à jouer leur propre rôle. Harry Belafonte, Cher, Burt Reynolds, James Coburn, John Cusack, Peter Falk, Jeff Goldblum, Elliot Gould, Angelica Huston, Andy McDowell, Jack Lemmon, Malcolm McDowell, Nick Nolte, Suzanne Sarandon, Julia Roberts et Bruce Willis. Et toute cette brochette d'acteurs et actrices accepta de faire leur caméo gratuitement. Doté d'un modeste budget de 8 millions de dollars, The Player en aurait coûté plus de 100 si toutes les stars avaient demandé leur cachet habituel. Mais c'est une règle dans le cinéma de Robert Altman. Les acteurs sont payés au tarif syndical, qu'ils soient vedettes ou non. Le film débute par un plan-séquence virtuose de 8 minutes où se croisent de nombreux personnages au sein du studio, parmi lesquels les principaux protagonistes de l'histoire. Un hommage direct au plan-séquence célèbre de La soif du mal, Orson Welles, et La corde d'Alfred Hitchcock. D'ailleurs, au moment où l'on commence à penser qu'Altman se prend pour Orson Welles, la caméra croise la route de deux personnages dont l'un dit à l'autre « Tu te souviens du début de La soif du mal ?» Ce plan impressionnant a nécessité 15 prises et tous les dialogues y ont été improvisés. Robert Altman présente son film au Festival de Cannes en 1992 et reçoit le prix de la mise en scène. The Player devient l'un de ses plus grands succès. Une résurrection artistique presque inespérée pour ce cinéaste qui n'aura jamais cessé de tourner.
From director Robert Altman comes a story of Hollywood.
I got a writer in here who's got a pitch I think you ought to hear. I think it's hot.
We open outside San Quentin.
The Graduate, part two. And Mrs. Robinson had a stroke, so she can't talk.
It's gonna be funny?
Yeah, it'll be funny.
Griffin Mill is a hotshot studio executive.
Yes. Angelica, Griffin Mill.
Oh, hi.
Good to see you.
Malcolm McDowell.
Hi, how are you?
Hi, Bert.
Good to see you.
He's heard every pitch.
That's exactly right. It's Out of Africa meets Pretty Woman.
He knows all the angles.
We're gonna have to have a little sex in this, Miss
Pretty. Okay, sure, of course. We'll get it.
Slowly, he pushes her panties down to her knees.
And all the players.
We're the stars.
No stars.
No stars?
Bruce Willis.
I want Bruce Willis.
Not Bruce Willis. No Schwarzenegger.
Junior Robbins.
Now, he's about to star.
How did this get here?
They're coming from a writer.
Hello, is David Kane there, please?
This is?
This is Griffin Mill.
Oh, the dead man.
In his most unforgettable story yet.
Stop all the postcards.
I don't like postcards! I want postcards!
This is a tough story. A tragedy.
Not unlike Ghost meets Manchurian Candidate.
The trouble is...
something you have to know.
If you went to Pasadena with intent to kill, you could go to the gas chamber.
It's not a movie.
I'd like you to come down to the station.
I would hate to get the wrong person arrested.
Oh, please. This is Pasadena. We do not arrest the wrong person. That's L.A.
It's his life.
Are you seeing someone else?
You took her to a party, Griffin, with several hundred of my best friends.
Do places like this really exist?
Only in the movies.
Robert Altman's The Player.
Can we talk about something other than Hollywood for a change?
Yeah. Yes.
We're educated people.
Yeah. Sure.
L'année suivante, il remporte le Lion d'Or à la Mostra de Venise pour Shortcuts, adapté de nouvelles de Raymond Carver, qui illustre sans doute le plus brillamment la dimension chorale de son œuvre. Soit une fresque intimiste où s'entremêlent les destins contrastés de 22 personnages, aux prises avec les drames, les émotions, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne. Altman est de nouveau nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur et ne remporte pas la statuette, comme l'année précédente avec The Player. Il subira une cinquième et dernière désillusion en 2002 en voyant le trophée lui échapper une dernière fois au profit de Ron Howard alors qu'il était l'un des favoris pour Gosford Park. Au moment de l'annonce du vainqueur, il enlacera David Lynch, lui aussi reparti bredouille, lui glissant à l'oreille. C'est mieux comme ça, David. Et pourtant, en 2006, quelques mois avant sa disparition, l'Académie tenta de réparer cet affront en lui décernant un Oscar d'honneur des mains de Lily Tomlin et de Meryl Streep, ses deux héroïnes, de The Last Show, son œuvre ultime, où il témoigne une dernière fois de son amour de l'Amérique profonde et de la musique country.
Faire un film, c'est comme faire un château de sable. Vous invitez vos amis, vous les faites venir, et vous leur dites que c'est vous qui avez construit cette belle structure. Puis vous vous asseyez, un verre à la main, regardez la marée monter et l'océan tout emporter. Et le château de sable reste dans votre mémoire. J'en ai construit 40. Et je ne m'en suis jamais lassé. Aucun autre cinéaste n'a été en meilleure forme que moi. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. J'adore le cinéma qui m'a donné une ouverture au monde et à la condition humaine. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant. C'était une histoire de cinéma, une émission revue et corrigée, le média consacré à l'actu des classiques du cinéma en partenariat avec Tsugi Radio. Retrouvez une histoire de cinéma sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de Revue et Corrigée. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre.